France Inter.
Le journal Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous. Le transport sanitaire en covoiturage, histoire de faire des économies, mais les patients devront faire jusqu'à 30 km de détour pour aller à l'hôpital. Une taxe qui fait l'unanimité, une proposition de loi vise les fraudes aux dividendes des grands groupes. Dans ce journal aussi, le sort des chrétiens de Gaza, oubliés depuis le début de la guerre. La frustration marseillaise, les joueurs de l'OM ont fait match nul un partout au Vélodrome face à Bergame hier soir. Et puis nous vous raconterons l'histoire d'un piano de concert qui a failli finir sur un rond-point.
Et à 7h45, cette question, où en sont les relations entre Paris et Pékin sur le plan économique? Guerre commerciale, droit de douane, concurrence, la France est-elle trop naïve? On en parle avec nos débatteurs Thomas Porcher et Dominique Seux.
France Inter.
Le covoiturage appliqué au transport sanitaire, taxi ou ambulance, la mesure avait été votée au Parlement à l'automne dernier. De quoi faire des économies plus que substantielles alors que le transport sanitaire a coûté plus de 6 milliards d'euros l'an dernier. Et les modalités du décret d'application, Solène Lehen, inquiètent les associations de patients.
Il faudra partager avec d'autres malades son ambulance ou taxi sanitaire avec un détour de 10 km possible par passager et dans la limite de 30 km. Une mesure insensée pour Catherine Simonin de la Ligue contre le cancer et France Asso Santé.
Quelqu'un qui est en radiothérapie pour un traitement anticancéreux, s'il a son temps de trajet normal plus 30 km pour aller déposer les autres personnes, qu'il habite dans une vallée montagneuse, il fait ça tous les jours, je pense qu'au niveau fatigue, il ne pourra pas s'en remettre.
Et dans le transport, rien n'oblige à porter le masque, déplore Bruno Lamotte de l'association de malades du Rhin Rénalou.
Les personnes immunodéprimées subiront pendant des heures, dans un milieu clos, une situation dans laquelle elles seront exposées à un risque supplémentaire. Par les autres malades, par les transporteurs, et on vous force à prendre ce transport.
Pour obtenir un transport individuel, il faudra que le médecin spécifie sur l'ordonnance que votre état est incompatible avec un transport partagé. Vous aurez tout de même la possibilité de refuser le transport partagé, mais dans un premier temps, cette année, vous devrez alors faire l'avance des frais et à partir de l'année prochaine, il faudra payer une pénalité dont le montant n'est pas encore fixé.
Solène Lehen de France Info. Comment sortir de la crise du logement? Le gouvernement qui présente son projet de loi en Conseil des ministres ce matin vise un logement abordable. Il mise sur le logement intermédiaire avec des loyers un peu plus chers que dans le logement social pour aider les classes moyennes et pour faire sortir certains locataires. Les compléments de loyer seront désormais imposés à ceux qui dépassent le plafond de ressources dès le premier euro.
Et puis Christelle, les fraudeurs seront les payeurs.
Ah, ce n'est pas nouveau, mais cette fois l'idée fait vraiment l'objet d'un consensus de gauche à droite. Il s'agit de lutter contre les fraudes aux dividendes. Elles permettent à de grands groupes d'échapper à l'impôt en transférant provisoirement leurs dividendes à l'étranger, parfois dans des paradis fiscaux. La proposition de loi, co-signée par une députée LFI et une sénatrice centriste, a le soutien de 5 groupes à l'Assemblée nationale. Et 6 au Sénat, Laurence Perron.
En décembre dernier, le Conseil d'État avait considéré qu'en l'état actuel du droit, cet arbitrage des dividendes, comme on l'appelle, n'était pas illégal. Qu'à cela ne tienne, proposons une loi qui interdise ce qui est en réalité de l'évasion fiscale, la députée LFI Charlotte Leduc, co-signataire de la proposition.
Une pratique d'évasion fiscale qui est plus connue sous le nom de cum-cum-cumex, et en gros ce sont des actionnaires qui par un jeu de cession et de prêt d'actions échappent à l'impôt sur les dividendes puisqu'ils prêtent leurs actions à soit des banques, soit des personnes qui sont exonérés de cet impôt et ensuite ils récupèrent leurs actions. A priori, on estime que cette fraude coûte 3 milliards d'euros par an à la France.
La sénatrice centriste Nathalie Goulet, dont c'est le combat depuis des années, estime qu'à l'heure où le gouvernement cherche des milliards, c'est une loi de bon sens.
C'est une mesure urgente, elle est nécessaire. Elle est aussi nécessaire pour que le citoyen et le contribuable comprennent pourquoi eux font des efforts et pas les autres. Je crois que... Et puis de toute façon, encore une fois, il faut prendre l'argent dans la poche des voleurs et pas dans celle des contribuables.
Le texte pourrait être inscrit à l'Assemblée nationale en juin. Un nombre conséquent de députés du parti présidentiel y est favorable.
À Sciences Po Paris, fermé en majeure partie aujourd'hui. Quelques dizaines d'étudiants mobilisés pour Gaza occupent certains locaux. 6 étudiants ont entamé une grève de la faim. Ils exigent le réexamen des partenariats de l'école avec certains établissements israéliens. Au Proche-Orient, le Hamas dit étudier avec un esprit positif. La dernière offre de trêve israélienne, 40 jours assortie d'un échange otage contre prisonniers palestiniens. Israël annonce par ailleurs la mort de l'un de ses otages dans la bande de Gaza, Dror Hor, 49 ans. Il avait été kidnappé au kibboutz de Berry avec deux de ses trois enfants. Sa femme avait été tuée le 7 octobre. À Gaza, les chrétiens sont en danger. Le patriarcat latin de Jérusalem alerte sur leur sort. Ils étaient un millier avant le début de la guerre. Au moins un tiers est parti. Et le risque désormais, eh bien, c'est qu'ils disparaissent de ce territoire qu'ils occupent depuis toujours. Reportage de notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre.
Les derniers chrétiens de l'enclave se sont pratiquement tous réfugiés dans deux églises, dans la ville de Gaza.
J'ai vécu comme le peuple et j'ai partagé ce qu'ils subissaient.
Et si sœur Nabila parle au passé, c'est qu'elle est partie il y a quelques semaines comme 300 autres fidèles, car depuis le 7 octobre, 32 sont morts, dont 20 dans des bombardements ou des échanges de tirs, les autres par manque de soins.
J'ai un problème au foie et j'ai vu beaucoup de souffrance. C'est très difficile d'abandonner ma mission à Gaza et puis de voir le pays détruit. Tout est détruit à Gaza.
Selon le patriarcat latin, il devrait être encore 300 de plus à payer des sommes exorbitantes pour quitter l'enclave dans les prochaines semaines.
Ça pourrait signer la fin du christianisme à Gaza.
Marie-Armelle Beaulieu est rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine.
Les églises n'organisent pas aujourd'hui la sortie. Si on renonce, c'est-à-dire si on facilite les départs, on entérine l'effacement d'une communauté bimillénaire. Les chrétiens ne sont pas des invités ici. Le christianisme est né ici.
Israël a proposé aux chrétiens de Gaza un plan d'évacuation. Les autorités cléricales ont refusé pour ne pas abandonner une terre occupée donc par les églises depuis près de 2000 ans.
Thibault Lefebvre à Jérusalem. L'intimidation de la Chine, 26 avions et 5 navires ont été détectés par le ministre de la Défense taïwanais autour de l'île ces dernières 24 heures. Le 20 mai prochain, le nouveau président élu Lai Ching-te sera investi. La Chine le considère comme un dangereux séparatiste. Un nouveau métier à risque, journaliste spécialisé dans l'environnement. L'UNESCO alerte en cette journée mondiale de la liberté de la presse. Plus de 70% d'entre eux affirment avoir été victimes de menaces, de pressions et d'attaques, parfois même physiques. 905 journalistes du monde entier ont été interrogés et 45% avouent même s'auto-censurer par crainte de représailles. Célia Kiré y reviendra à 8h50. Un Français sur deux n'avait pas voté aux dernières élections européennes en 2019. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, eh bien c'est le jour ou jamais. Et les retardataires sont nombreux, comme vous l'avez constaté à la mairie de Mans dans l'Auxerre, Saïd Makhloufi.
Au dernier moment,
on écouté les infos et on a appris que c'était jusqu'à aujourd'hui.
Eugénie et son compagnon viennent s'inscrire sur les listes électorales.
Ah oui, il faut s'inscrire. Bah oui, c'est pour notre avenir, l'avenir de nos enfants.
Mairie demande bonjour.
À la mairie, ils sont accueillis par Elisabeth Lafisca.
Il vous faudra remplir le document en noir.
Le dossier rempli, validé. Amandine quitte les lieux soulagée.
Je vous remercie.
Un départ, une arrivée.
Je viens m'inscrire sur les listes électorales.
Et c'est comme ça depuis le début de la semaine.
Beaucoup d'affluence liée effectivement aux élections européennes qui approchent.
Amandine Bouquet en charge des élections à la ville de Mende.
Oui, c'est conséquent. Pour le coup, j'étais à jour vendredi de mes dossiers d'inscription en ligne et papier. Et là, ce matin, en arrivant entre donc lundi, mardi et mercredi, j'avais 85 notifications ce matin en attente.
85 demandes en moins d'une semaine, alors que l'élection européenne n'est pas le scrutin qui attire le plus.
C'est vrai que les municipales et les présidentielles restent les scrutins où on a le plus de mouvements sur nos listes.
Une tendance qui se confirme en traversant la rue, direction le café du coin. Qui n'est toujours pas inscrit sur les listes électorales ?
Moi, je ne suis pas inscrit.
Moi aussi. Moi aussi, pareil, pas inscrit.
En 2019, à peine plus d'un électeur sur deux s'était déplacé au premier tour du scrutin.
Saïd Makhloufi de France Bleu, Gare Lozère. C'était le 27 juin 2023. Un policier tiré sur un adolescent à Nanterre lors d'un contrôle routier. La mort de Naël allait embraser le pays. Eh bien, une première reconstitution avec tous les protagonistes aura lieu dimanche. L'enquête doit établir si l'usage d'une arme à feu était légitime.
7h39, on passe au football. Il a manqué un petit truc.
Eh oui, l'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, le reconnaît en ces termes. Marseille, tenu en échec un partout au Vélodrome par les Italiens de Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa, malgré une domination marseillaise. Un nul frustrant, Nicolas Perronnet.
Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, difficile de trancher, même le vestiaire marseillais était divisé à la fin de la rencontre. Curieux mélange de fierté et de déception, même sentiment dans les tribunes d'un vélodrome bouillant mais resté sur sa faim, même constat dans les mots choisis par l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
Un petit goût amer, conscient d'avoir fait le match qu'il fallait contre une bonne équipe, mais on dit souvent que les matchs se jouent sur des détails. Et je pense que les deux ou trois détails étaient en notre faveur.
Une barre transversale, un but refusé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres, une occasion ratée par l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang seul face au gardien. Des détails qui pourraient avoir de lourdes conséquences au match retour. Mais le défenseur argentin Leonardo Balerdi reste certain que l'OM peut se qualifier à Bergame.
On est positif. Un match nous à domicile, c'est pas mal. Aujourd'hui, on était supérieur et je pense que là-bas, on va le faire.
Se qualifier pour éviter que cette frustration du match aller ne se transforme en regrets éternels.
Oui, match retour jeudi prochain à Bergame. Dans l'autre demi-finale, le Bayer Leverkusen a battu l'AS Rome 2-0 au stade olympique de Rome. Enfin, un enregistrement inédit des suites pour violoncelle de Bach. Le pianiste Thomas Jarry a retravaillé la partition et l'a adaptée à son instrument. Et il livre, Stéphane Capron, un enregistrement inédit sur un piano d'exception qui a failli finir sur un rond-point. Racontez-nous.
Ces suites ont toujours hanté Thomas Jarry. Il les a entendues jouer par son frère, violoncelliste, sans pouvoir l'accompagner. Il s'est donc lancé dans cette aventure, les retranscrire au piano.
Le piano a quelque chose de très très expressif. La seule chose qu'il n'est pas, c'est de pouvoir avoir des tenues ou un vibrato comme le violoncelle. Si j'avais dû jouer la partition telle qu'elle était, écrite par Bach, ça aurait été à mon sens un peu pauvre. Donc il fallait souligner les harmonies proposées par Bach lui-même. Bach, peu importe l'instrument, du Bach ça sonne toujours bien, même au ukulélé.
Thomas Jarry a enregistré ses suites de Bach sur un piano d'exception, un gaveau de concert de 1953 sur lequel a joué Georges Siffra dans les années 70. Un piano qui a failli brûler dans l'incendie du conservatoire de Versailles en 73. Il est resté dans un coin pendant des années sans que personne ne s'en préoccupe jusqu'à une récente vente aux enchères au kilo.
Il était très très abîmé, il était dans un collège, il y avait des chewing-gums, des dessins un petit peu cochons au blanco, enfin je vous raconte pas. Il n'était pas très présentable et ce piano a failli finir comme Bach à fleurs sur un rond-point municipal. Mais la municipalité, j'en suis désolé, ne savait pas la réelle valeur de cet instrument.
Car Thomas Jarry a fait une très très bonne affaire, il a acheté le piano 650 € alors qu'il en vaut 100 fois plus.
Incroyable histoire, les suites pour violoncelle de Bach interprétées donc par le pianiste Thomas Jarry.
Et le silence après du Bach, c'est encore du Bach peut-être. Et puis après Christelle Robière, c'est aussi du Christelle Robière. À suivre,
si vous voulez.
À suivre, la gauche réconciliable ou non. Voilà la question élément de réponse dans l'édito politique.